Voilà des années que l'on nous répète qu'il n'y a pas assez de commerciaux en France, qu'on cherche à en recruter des nombres faramineux. Et cette situation n'a pas trop changé au fil des années. Pourtant, en 2022, près de 40 ans après les fameuses écoles tapis, de nouvelles institutions de formation se créent dans notre pays avec des coachs de vente de tous les âges qui se donnent pour mission de faire aimer le commerce aux jeunes français. Sales and Marketing Insiders ne pouvait que leur donner la parole et pour cela, j'ai invité Philippe Gilotin, sales coach chez Iconoclass, pour tout nous expliquer. Vous écoutez bien les podcasts de Sparklane sur le blog Sales and Marketing Insiders, le blog d'information sur la vente en B2B. 200 000 postes de commerciaux à pourvoir dans la vente en France. Il y a déjà 30 ans, on entendait ce type de chiffres. Il semblerait que plus ça change, plus c'est la même chose, disait le poète. Les chiffres sont même désespérément les mêmes. Sur RTL, en 2016, la chaîne de radio blâmant le manque d'écoles formant ces métiers parlait déjà de ces 200 000 postes à pourvoir. Sur e-marketing.fr, en février 2022, même constat, même chiffre, même diagnostic. Je cite. Le nombre d'annonces publiées par les recruteurs pour des profils commerciaux a connu une hausse de 43% en 2021. Le cabinet de recrutement Michael Page estime le décalage à 200 000 postes à pourvoir contre 710 000 pourvus à travers la France, nous dit e-marketing.fr. Avec une information intéressante relevée par le cabinet de recrutement, je cite toujours, « Le manque serait dû à la fois à l'accroissement des besoins et à un appauvrissement des profils. Il y a donc du pain sur la planche pour les instituts de formation spécialisés. Et cela tombe à pic, car une nouvelle génération d'écoles de vente tente de relever le défi. Philippe Gilotin, sales coach chez Iconoclass, observe même des signes encourageants sur le terrain. Il y a une pénurie de commerciaux, nous dit-il, mais le plus incroyable, c'est qu'on ne manque pas de candidats. Et l'enquête d'insertion des jeunes diplômés filière management de la Confédération des grandes écoles de 2022 montre qu'il y a de l'espoir. Les jeunes se dirigent, selon cette étude, à près de 20% vers les métiers du commercial, davantage que dans les métiers du marketing. Et il y a donc de l'espoir, il faut arrêter de dire que le métier de commercial n'attire pas, même s'il existe des points de vigilance. Les entreprises ont des attentes particulières, la concurrence s'intensifie, des milliers d'entreprises et start-up naissent tous les jours, ajoute Philippe. Or, si les offres et les candidats sont bien présents, la qualité du profil n'est pas toujours au rendez-vous, il y a donc nécessité de former ces nouveaux profils. Je vous laisse donc en compagnie de Philippe Gilotin dans cette interview où il nous décrit les différents enjeux des formations pour les commerciaux en 2022 et dans le futur, ainsi que les plans d'Iconoclass, une école de vente de nouvelle génération. Alors, je suis avec Philippe Gilotin d'Iconoclass. Bonjour Philippe.
Bonjour Yann.
Merci d'avoir accepté de témoigner sur le blog Sales and Marketing Insiders de Sparklane.
Avec grand plaisir.
Alors, j'ai cru comprendre, Iconoclass, bien entendu, tu vas nous expliquer ça bientôt, c'est une école de vente. Mais j'ai cru comprendre que toi, ton parcours, il avait commencé par les achats.
Tout à fait, effectivement, ouais. Iconoclass, c'est l'école de vente 2.0. Moi, je me suis retrouvé là, alors qu'effectivement, au départ, je devais m'orienter dans la grande distri. Et puis, à l'issue de mon école de commerce que j'ai réalisée à Rennes, je me suis retrouvé en stage de fin d'études à la Scamarc, la centrale d'achat des marques de distributeurs de Leclerc. Et écoute, les choses ont fait que mon parcours s'est plus orienté vers la vente que vers les achats. Il y a beaucoup de points communs entre les deux, il y a des grosses différences aussi, mais on va dire que mon cœur a plus balancé vers la vente.
D'accord, très bien. Et pourquoi tu n'as pas aimé finalement les achats? C'était pas...
Non, j'ai pas aimé, c'est pas que c'était pas intéressant, je pense qu'il y a des choses intéressantes à prendre partout, c'est juste que dans le format de ce qui était réalisé dans les sessions d'achat, par rapport à la vision que j'avais du métier, on va dire que j'accorde énormément d'importance à l'humain dans tout ce que je fais, et là je ne retrouvais pas cette notion-là, c'était vraiment beaucoup de ce que j'ai pu observer, voilà, beaucoup de pression...
Dans la distribution,
c'est
un peu particulier aussi, hein, parce que les achats dans le B2B, c'est un peu différent.
C'est différent, oui. Effectivement, moi, j'ai eu une première vision, jeune diplômé d'école de commerce, des achats qui n'a pas été la bonne. Et alors voilà, il y a des clichés qui collent à ce secteur-là qui sont pas faux. Et je dirais pas que ça m'en a dégoûté à l'époque, mais on va dire que ça m'a plutôt donné envie d'aller voir d'autres choses. Et mon histoire personnelle a fait, et les rencontres que j'ai pu faire a fait que je me suis retrouvé naturellement dans la vente B2B, ce qui aujourd'hui est une passion, donc je ne le quitte plus.
Ça a une passion. Et puis, j'ai cru comprendre aussi, pendant 5 ans, tu as managé une équipe et même mis en place une école de vente dans une entreprise.
Oui, tout à fait. Lors de ma dernière expérience professionnelle avant Iconoclast, j'étais oui, manager commercial d'une quinzaine de profils sales en B2B dans la petite enfance chez Babylou, pour les citer, où effectivement les évolutions ont été vraiment exponentielles. La croissance de l'entreprise s'est faite très très vite et du coup on a énormément recruté sur une période charnière pour l'entreprise, pré-Covid. Et à ce moment-là, on a estimé nécessaire effectivement de mettre en place un système de formation en interne pour les sales du siège en Île-de-France, mais également pour les antennes régionales. Et on a travaillé avec des collègues sur la School Academy Babylou, où on a essayé de trouver vraiment les meilleurs modèles de formation pour les sales en entreprise liés à des formats de vente B2B de la petite enfance, qui est un format, comme je te le disais un peu avant notre échange de ce jour, assez particulier. Donc voilà 5 belles années qui m'ont énormément appris. Et maintenant aussi, après derrière ça, après cette expérience, je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas prolonger cette expérience de formation et d'accompagnement en me lançant dans le coaching. Et c'est comme ça que je me suis naturellement retrouvé chez Iconoclast à former des futurs sales.
Et tu es la démonstration vivante que finalement, la vente en B2B, c'est pas un truc de vieux.
Alors. Bah, ça, c'est pas un truc de vieux. Je pense que c'est un truc de tout âge. Voilà, hein. Si on aime les gens, si on aime vendre, si on s'est posé les bonnes questions, si on aime le contact humain, bah oui, c'est un truc de tout le monde. J'aime pas, moi, ces termes de jeune, vieux, ancien, tout ça. C'est, voilà. Tant
La
qu'on a l'envie et la
jeunesse, c'est dans
passion,
la tête, hein,
et
c'est
je suis
clair.
totalement d'accord avec ça.
Bien sûr. Alors, c'est une excellente transition. Tu parlais de avoir envie de faire de la vente. Et alors, aussi, il y a une chose qui n'a pas l'air de changer depuis le temps que je travaille, c'est que tu me disais tout à l'heure, il y a 200 000 emplois à pourvoir dans la vente en France. C'est incroyable, ça. On est dans un chômage de masse depuis des années et il y a 200 000 vendeurs qui manquent à l'appel. C'est incroyable.
C'est incroyable et ça l'est d'autant plus que quand j'en parlais avec toi un peu plus tôt, tu me disais que t'entendais déjà ces chiffres-là
Oui,
il y a plus de 30
exactement.
ans.
Oui.
Donc c'est apparemment des choses qui n'évoluent pas, qui ne changent pas. Je suis d'accord avec toi, c'est surprenant quand tu vois le niveau de chômage avec lequel on est en France aujourd'hui. En fait, il y a une pénurie de commerciaux, il y a une pénurie de sales, et c'est ce que je te disais un petit peu plus tôt. Ce qui est plus dingue, c'est qu'on manque pas de candidats. Les candidats sont là. Quand tu parles avec les recruteurs, ils te disent on reçoit énormément de candidatures, mais c'est la qualification du profil qui n'est pas la bonne. Aujourd'hui, il y a des attentes particulières des entreprises. La concurrence, elle est de plus en plus forte. Il y a des milliers et des milliers d'entreprises et de startups qui poussent et qui naissent tous les jours. Donc oui, les offres sont là, les candidats aussi, mais la qualité du profil n'est pas là. Il y a donc une nécessité de former ces gens-là. Voilà.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui cloche dans ces profils? Ils sont trop timides, ils ont peur.
Bah, quand on écoute les recruteurs, quand on échange avec des profils RH, de profils qui cherchent des commerciaux, ce qui revient le plus souvent, c'est que il n'y a pas cette niaque sales, il n'y a pas cette envie de prendre le téléphone, d'aller au contact, de se dépasser. Il y a cette espèce de peur et de crainte de commencer à réaliser certaines missions. Bah moi, je le vois, c'est quand même un truc de dingue. C'est aussi ce qui a motivé à mettre en place la formation de nos commerciaux chez Babylou. Cette peur et ce dégoût de la prospection. C'est un exemple que je prends, il y en a plein d'autres. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en France, il y a cette espèce d'élitisme de l'école de commerce où je paye une fortune, un diplôme, je suis très bon dans la théorie, mais dans la pratique, il y a des choses soit que je ne sais pas faire, soit que je ne veux pas faire. Et quand on entend les recruteurs aujourd'hui, ils nous disent, ben oui, ils ont un très beau discours, ils savent très bien se tenir en entretien, et dès qu'il faut prendre le téléphone, soit il y a la peur, soit il y a la non-envie. Et effectivement, aujourd'hui, quand on est sell, je pense qu'il faut savoir maîtriser tous les outils de la vente et la prospection en fait partie. Donc voilà, c'est un peu le constat qu'on a relevé aujourd'hui.
Et alors, qu'est-ce qui leur déplaît dans la prospection? C'est parce que c'est difficile, parce qu'on se prend beaucoup de râteaux, parce qu'il faut taper dans le dur, ou peut-être justement parce qu'ils savent pas faire autrement que de taper dans le dur?
Moi, je pense que tout ce que tu viens de dire, ça résume tout. Déjà, il y a cette peur de se prendre des portes, la peur du non, la peur de l'échec. Aujourd'hui, si je devais généraliser le débat au-delà du simple métier de sales, mais plus à la vie, il y a cette espèce de peur de l'échec qui vit à travers tout le monde, cette envie de bien faire constamment pour se prouver des choses à soi puis aux autres aussi. Déjà, le non, les gens sont effrayés. Après, il y a ce côté aussi, je suis pas censé faire ça. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de clichés qui tournent autour du métier de sales. Je suis pas là pour passer des coups de fil. Il existe des centres de téléprospection pour ça. Je peux décentraliser ce sujet-là. Non, au contraire, c'est à toi de le faire. Et enfin, le dernier sujet, c'est je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire, on m'a pas appris, on m'a pas montré, c'est trop technique, c'est trop complexe. Aller chasser ses leads, créer sa base de données, prospecter via certains outils en ligne. T'en entends beaucoup qui te disent, mais ça, c'est le travail du growth, c'est le travail de l'équipe marketing. Et nous, après, derrière, on doit récupérer les leads et vendre. Ben voilà, donc tu vois, c'est un mélange de tout ça, le je sais pas faire, le je veux pas faire et j'ai pas à le faire. Voilà.
C'est peut-être une incompréhension de ce que c'est la vente en B2B, parce que j'ai
Ouais.
l'impression que pour beaucoup, et ça correspond tout à fait au diagnostic qu'on a posé avec Yves Blandio sur ce sujet-là, c'est que on a l'impression de voir toujours les mêmes comportements de gens qui croient que le métier de commercial, c'est juste de sortir le catalogue produit avec le prix et d'aller le
Ouais.
proposer, de répondre à un besoin qui a été identifié de préférence par quelqu'un d'autre, parce que c'est moins fatigant.
Bah
Mais en
écoute,
fait, ça se passe rarement comme ça, en fait.
bien sûr que non, plus que non. Mais je pense que, comme tu le dis, il y a une très forte méconnaissance du métier et surtout aussi des clichés qui collent au métier de sales. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, quand j'explique à mes amis, à mon entourage ou aux amis d'amis ce que je fais, ah oui, tu formes des vendeurs. Ok, creusons le débat. Déjà, tu peux aller plus loin dans ce que tu penses. Donc, je pose toujours la question, c'est quoi pour toi un vendeur, du coup? Oui, bah, tu vends un produit, tu as une offre, tu fais une démo, bah, voilà, tu vends le truc. En fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a une méconnaissance et déjà de ce que c'est le B2B par rapport au B2C et aussi de la complexité de ce métier. Comme tu l'as si bien dit, je pense que le cliché du commercial, du vendeur qui doit juste vendre son catalogue produit, il existe encore. Donc aujourd'hui, on est obligé, nous, de défendre notre métier, ce qui est dommage quand même, parce qu'on vient répondre à une solution, on vient répondre à des besoins, à des pains, comme on en parlait toi et moi un peu plus tôt, donc des vraies douleurs au quotidien, qui ont des impacts assez forts et des répercussions dans tous les services dans une entreprise. Et on est encore obligé aujourd'hui de défendre son métier en disant non, je ne fais pas que ça. Aujourd'hui, j'apporte une vraie valeur ajoutée aux gens. Et je ne fais pas que montrer un catalogue produit. Au contraire, déjà, je commence par poser des questions. Et ça surprend toujours.
Ok, c'est intéressant. Je vois qu'on est assez en phase sur le diagnostic. Alors, je pense qu'il y a effectivement une difficulté dans la vente. Hein. C'est quelque chose de difficile. Je suis passé par là. Hein. Et notamment quand on est jeune et inexpérimenté, on a peur de se prendre des râteaux, mais c'est un peu normal parce qu'on n'est pas très sûr de soi. C'est normal. On a peur de l'échec. Là,
Il n'y
y
a
a
pas
pas
de
de grande
honte à ça.
découverte. Quelque part, je me demande aussi. Si on n'a pas un problème pour expliquer en quoi c'est intéressant d'être vendeur, si je veux convaincre tous ces jeunes de venir dans la vente, c'est voilà bon, oui, c'est dur, c'est un travail complexe,
Bien sûr.
technique, contrairement à ce qu'ils croient, c'est beaucoup plus
Ouais.
technique que ce qu'on pourrait penser. C'est très stratégique aussi, parce que très
Ok,
souvent on
oui.
s'intéresse à la stratégie du client. Mais surtout, il y a un bénéfice pour les personnes qui travaillent dans la vente en B2B. Déjà, pour commencer, c'est bien payé.
Oui, ouais. Oui, mais alors tu vois, premier argument, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai un point de vue sur le sujet. on est confronté au quotidien, tous les jours, à de la vente. Tous les jours. C'est-à-dire que les gens associent tout le temps la négociation et le traitement des objections à de la vente. Ok, je suis toujours obligé de vendre mes arguments, je dois contrer ceux des autres, je suis toujours en train de négocier. Au quotidien, on est harcelé de mails, de coups de téléphone où on veut nous proposer des choses. Et donc, je pense que dans l'esprit commun, dans le mindset général, il y a ce rapport à la vente qui est ok, commercial égale requin. Déjà, ça, c'est quelque chose que je constate depuis très longtemps. Si tu es dans la vente, si tu es un commercial, ouais, un sales ou un vendeur, comme tout le monde veut l'appeler, j'en sais rien, il y a obligatoirement un côté je veux te bouffer, je veux t'arnaquer.
Le Jean-Claude Convenant, quoi, c'est ça.
Exactement, le Jean-Claude Convenant avec sa Xantia qui va à la patate qui fume pour signer des contrats sur une nappe en disant lui, je l'ai bien eu, je lui ai vendu 40 C14 alors qu'il n'avait besoin que d'une. Pour les fans de Caméra Café qui nous écoutent. Voilà, il y a ce rapport au côté arnaque, au côté vente, au côté je vais te vendre quelque chose dont tu n'as pas besoin. Alors que, comme tu l'as si bien dit, il y a cette méconnaissance de la valeur ajoutée qu'apporte le commercial, de ce que lui peut y gagner aussi en termes de rencontres, de network, de tout ce qu'il y a autour du métier de sales. Et en fait, c'est à ça qu'on forme aussi chez Iconoclast, à essayer un peu de casser les codes, voilà, de disrupter la vente en se disant « Ok, ce n'est pas ce simple cliché du commercial beauf et requin. Ouais. » La vente B2B, c'est... Ça va faire un petit peu, on va me prendre pour un fou, une sorte d'illuminati de la vente dans une secte, mais ben, c'est un art la vente, vraiment c'est un art, ça nécessite plusieurs qualités techniques, des connaissances, mais aussi des qualités personnelles, des soft skills très particuliers.
Absolument. Au passage, d'ailleurs, pour tous les jeunes, et ils sont nombreux, qui veulent créer des sociétés, il faut leur dire qu'il n'y a pas d'entrepreneur qui ne soit pas avant tout un vendeur. Hein. C'est la première. Ou alors, s'il n'est pas vendeur, en général, il va s'associer avec quelqu'un qui est un peu plus commercial. Mais
clairement, voilà. Totalement d'accord. Bien
créer sûr. Une société sans être vendeur, c'est un peu comme faire du vélo sans pédale. Alors, on a compris le vrai problème. On a compris où il faut aller. Et puis, au milieu, il y a Iconoclast qui fait la formation de la vente 2.0. Alors donc, ça veut dire, je suppose qu'on est en train de rebooter la formation commerciale. Alors, ouais. Vas-y, explique-nous comment vous faites.
Comment on fait ? C'est simple. Nous, on a un mojo, une phrase qu'on adore dire, c'est que on veut casser les codes de l'élitisme académique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Avant de former... On veut faire comprendre aux gens que, quelle que soit leur origine sociale, quel que soit leur background, leur expérience professionnelle ou leur âge, sujet dont on parlait toi et moi un petit peu plus tôt, tu peux devenir commercial si tu as l'envie d'apprendre et si tu as vraiment cette ouverture d'esprit. Donc, il n'y a pas, quand on dit casser les codes de l'élitisme académique, c'est ça. C'est déjà, il n'y a pas de personnes qui peuvent être des meilleures sales que d'autres parce qu'elles viennent de tel endroit ou de telle origine. Non. Il faut cette volonté, il faut cette envie. Après, derrière, donc nous, on donne cette chance à tout le monde, mais pas à n'importe qui. Donc, c'est bien beau de vouloir devenir commercial, mais moi, je dis toujours qu'il y a une différence entre la motivation et l'engagement. La motivation, c'est les paroles, c'est se dire « Ouais, non, mais je vais faire ça bien, je vais me donner. » Non, l'engagement, c'est des actes. C'est « Bah oui, au quotidien, je vais me donner peut-être deux fois plus que les autres parce que être commercial, c'est pas un métier simple. Certes, ça gagne très bien, sauf que c'est un métier où tu vas gagner en fonction de tes résultats. » Ceux qui nous écoutent, il y en a, ils le savent peut-être déjà, d'autres le savent peut-être pas, mais sur la rémunération d'un sales, il y a une grosse partie qui correspond à son variable. Et ces variables sont directement corrélées à ta performance directe. Donc, il faut se donner. C'est à ça qu'on forme chez Iconoclast. Nous, c'est 20% de théorie, parce que la base théorique, c'est quand même important de connaître les bases. On donne le squelette. Et c'est 80% de pratique. Donc, qu'est-ce qu'on entend par 80% de pratique? Eh ben, on a des entreprises partenaires ou non, qui viennent chez nous avec des fichiers de leads, de prospects, et on leur fait faire du cold call, on leur fait faire des appels, on leur fait faire des role play de vente, des mises en situation, on leur fait traiter des objections, et ça pendant 3 mois sur un format bootcamp en physique dans nos locaux, et on les fait pratiquer, on les fait se prendre des portes, on débriefe avec eux, on leur fait aussi du développement personnel, il y a tout un programme de développement personnel en parallèle du programme de vente. Pourquoi ? Parce que c'est important aussi de trouver son équilibre en tant que sales. C'est pas un métier qui est simple, donc faut avoir confiance en soi. Faut être dans une forme d'équilibre pro et perso. Donc, on a mis en place ce programme en parallèle de celui de vente. Et voilà, et on les forme pendant 3 mois à la pratique au maximum. On leur donne ce squelette sur des techniques de vente qui existent déjà et qui sont hyper connues, ou que d'autres on a construites, nous, avec mes collègues coachs. Et écoute, il semblerait que ça marche plutôt bien puisqu'on a des retours positifs avec un taux d'embauche et de placement à la sortie de la formation qui est à 98% aujourd'hui post 6 mois. Donc on est plutôt satisfait. Et on ouvre bien à Londres à la rentrée de septembre, donc on s'internationalise.
D'accord. Bah, on reviendra, on met à Londres au frigo parce que.
Ouais, ça marche.
Ayant vécu longtemps en Grande-Bretagne, ça m'intéresse de savoir comment ça se passe de l'autre côté de la Manche. Revenons sur les coachs. Alors, c'est qui les coachs qui sont chez Iconoclast? Ce sont des vieux poilus de la guerre 14 ou c'est des jeunes requins?
Il y a un peu des deux. S'ils m'entendent, ils vont rigoler. Des vieux palus de la guerre 14, non, mais personnellement, j'ai pas de honte à l'admettre, je suis le plus jeune des coachs ici, j'ai 33 ans, je l'ai pas stipulé au début, mais encore une fois, ça revient à ce qu'on disait un peu plus tôt, il n'y a pas d'âge, je pense que c'est juste une envie de partager sa passion, une envie vraiment d'apporter aux autres ses connaissances et son savoir, et d'être dans l'accompagnement, c'est une aventure humaine assez forte, Iconoclast, et donc c'est des profils qui sont issus du B2B, déjà, c'est important, puisque nous, on ne forme exclusivement qu'à la vente B2B. Puis, on a tous les profils. On a, le premier manager historique Arnaud de chez Iconoclast, historique de chez Iconoclast, Arnaud, qui a construit une grosse partie du programme. Bah, lui, à la base, il est ingénieur informaticien. Donc, il a des points communs avec toi aussi sur le parcours informatique. Et puis, il a été dans une très bonne école de vente qui est Xerox. On a mon collègue Julien qui vient de chez Pepsi et qui a fait aussi Michel Augustin, Carglass, ma collègue Vanessa qui a travaillé longtemps chez Pulp et qui elle aussi a une expérience totalement atypique et un parcours atypique puisqu'elle à la base elle n'a pas de diplôme et pourtant elle a fait une carrière extraordinaire B2B. Donc on a des profils totalement différents qui sont tous unis par la même passion qui est l'envie de transmettre autour de la vente B2B. Donc voilà, on a tous minimum 10-12 ans d'expérience. Et encore une fois, je le dis, pour moi, c'est pas les années d'expérience qui vont faire la qualité d'un coach. C'est plus voilà, c'est son envie de transmettre et sa passion du métier.
Oui. Alors, une petite question sur ces cours, parce que la mode, c'est les cours hybrides en ce moment, un petit peu de présentiel, un petit peu de distanciel, comme on dit. Non, vous faites pas de distanciel, tout en présentiel.
Nous, ce qu'on propose, c'est un bootcamp. C'est-à-dire que c'est dense. Il faut que les sales de demain qui passent par Iconoclast, ils prennent conscience que c'est un métier, comme beaucoup de métiers, qui est compliqué, mais où on peut pas se permettre de faire un peu de ci, un peu de ça. Nous, déjà, on essaie, pendant la formation, de les confronter à la réalité du métier. C'est-à-dire que tu vas devoir être tous les jours au travail, que ce soit en télétravail ou au bureau, c'est un minimum de 9h à 18h, le strict minimum. Voilà. Et en fait, nous, ce qu'on propose comme format, c'est un format en physique, en bootcamp, du lundi au vendredi, tous les jours. Ou alors, en remote, à distance, pareil, du lundi au vendredi, mais il n'y a pas d'hybride. Il n'y a pas de tu fais un petit peu de remote et un petit peu de physique. Si tu choisis le format physique, tu es là 100% physiquement. Si tu choisis le format remote, tu seras 100% en remote. Parce qu'après, derrière, en plus de ça, vu qu'on a énormément d'élèves par promo, en termes d'organisation, ce serait ingérable de devoir s'adapter aux allées et venues de chacun.
C'est à peu près une centaine d'élèves, hein, c'est ça?
Exactement, c'est ça, ouais. On était sur un petit peu plus de 90 sur la dernière qui vient de se finir la semaine passée. D'accord. Et on a notre prochaine promo qui démarre le 19 septembre avec 120 élèves environ. Donc e-conners, on n'aime pas élèves, on dit e-conners.
des apprentis.
C'est ça.
D'une certaine manière, ces promos sont des promos humaines, à taille humaine, parce que c'est un enseignement qui est un enseignement assez pratique. Donc, on peut pas avoir des promos de 1000 personnes. Quoi.
On est limité. C'est ce que je te disais un tout petit peu plus tôt dans notre échange. Notre discours, c'est qu'on est ouvert à tout le monde, mais pas à n'importe qui. Donc, il y a quand même une sélection à l'entrée. C'est une sélection qui est basée sur des critères assez simple hein, de motivation et de personnalité. On prend environ nos dernières statistiques, on était à peu près 22% de candidats acceptés dans la promotion, parce qu'on veut quand même avoir et garder cette qualité pédagogique de formation où on se dit qu'il faut qu'on ait un accompagnement de proximité pour nos e-conners. Donc, on est à peu près à pas plus de 30 e-conneurs par coach. Et c'est pour ça qu'on fait pas des promos non plus trop grandes. Parce que déjà, on manque de sales coach aussi. Et qu'on veut pas être dans la masse. On veut pas se dire, ouais. OK, on forme pour former. Non. On veut qu'ils vivent une expérience quand même particulière et unique.
Parce qu'il y a une pénurie, donc, de coach. Pourquoi c'est difficile de trouver aussi les vieux poilus?
Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile du tout parce qu'en fait, c'est compliqué de trouver des personnes qui partagent notre vision de la vente B2B, tu vois. Et en fait, cette envie aussi de transmettre à des jeunes qui veulent apprendre le métier. C'est pas simple, tu vois. Toi et moi, dans nos échanges, on se retrouve totalement, je trouve en tout cas dans l'idée sur ce qu'est le métier de commercial B2B, mais tout le monde n'est pas d'accord. Il y a beaucoup de requins dans ces vieux poilus, comme tu dis, donc c'est oui. Difficile à trouver.
Oui, il y a des vieilles écoles et il y a les nouvelles écoles qui sont pas forcément en phase. Et alors, donc, dans ces 78% de jeunes qui ne sont pas admis dans vos cours, c'est quoi la raison? Ils ont pas vraiment envie, ils sont juste là parce qu'ils ont vu de la lumière.
C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais utiliser la même expression. On retrouve beaucoup cette notion de j'ai vu de la lumière. Il y a aussi beaucoup de candidats qui viennent et quand on leur pose la question, qu'est-ce qui te motive vraiment à devenir business developer ou quelles sont tes raisons? Ça gagne bien. D'accord, mais quelles sont les raisons plus profondes? J'en ai pas, c'est juste que je veux gagner de l'argent. Donc en fait, pour nous, c'est pas suffisant. Certes, c'est un argument, évidemment. Si on veut pas gagner de l'argent en étant commercial, ça sert un peu à rien. Et en faire gagner à son entreprise. Mais c'est pas censé être la seule source de motivation. Donc voilà, il y a beaucoup ce côté aussi. Je sais pas quoi faire. J'ai pas d'idée. Donc j'ai vu de la lumière, je veux rentrer. Ça gagne bien, à ce qui paraît, j'ai entendu ci, j'ai entendu ça. Et en fait, nous, c'est pas suffisant. On veut vraiment des personnes motivées, engagées, qui ont déjà fait des recherches sur le métier, qui ont des petites idées de ce qu'elles veulent faire. Et même si elles n'en ont pas, nous, on va les guider. Mais voilà, c'est pas juste je toque à la porte et hop, laissez-moi rentrer.
Donc, ça paraît logique, un futur bon commercial en B2B, il faut déjà qu'il arrive à réussir à se vendre lui-même.
Voilà. Tout à fait. On est bien d'accord.
Et s'il n'arrive pas à passer cette phase-là, eh bien, c'est pas la peine d'aller plus loin. Un podcast que je te recommande qui s'appelle La Voix de la Vente, de François Rollin, et il décrit, ça doit être ça, un des premiers épisodes, et il y avait un de ses patrons qui lui disait, en premier, on vend le bonhomme, en deuxième, on vend la boîte, et en troisième, on vend le produit. Ouais, et sa conclusion, c'était, et si tu as vendu les deux premiers, le troisième passera comme une lettre à la poste.
Voilà. Je prends le plan. Je le garde.
Alors, tu nous l'as dit, vous allez ouvrir une école à Londres, une iconoclasse à Londres aussi.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que vous avez découvert de l'autre côté de la Manche? Est-ce qu'on cherche aussi beaucoup de commerciaux ou est-ce que la situation est bien différente?
C'est sensiblement le même constat. Voilà, la raison est la même. L'idée, c'est pas d'ouvrir pour ouvrir. L'idée, c'est d'ouvrir dans des pays où on a remarqué qu'il y avait sensiblement le même besoin, les mêmes raisons, les mêmes problématiques liées à la perception du métier de sales B2B et à ce manque de technicité aussi dans la formation. Tu sais, on dit toujours que les meilleures écoles de vente, c'est les boîtes américaines. Donc, on essaie souvent de copier des modèles un petit peu anglo-saxons. Et aujourd'hui, après études et analyses, on se rend compte qu'en Angleterre, c'est la même chose. Il y a des écoles de commerce extrêmement élitistes qui ne forment qu'à la théorie. Et aujourd'hui, les commerciaux dans les entreprises au Royaume-Uni ne sont pas aussi performants que ce qu'ils devraient être. Donc, on s'est dit qu'on allait répliquer le modèle là-bas et voir ce que ça allait donner. On commence avec une toute petite promo. L'idée, c'est pas non plus d'arriver avec nos gros souliers et de dire « Ok, on est iconoclaste, on va révolutionner ». Non, c'est quand même une phase test à faire. Donc, ça va être une promo d'une douzaine, quinzaine, pas plus d'iconeurs anglais, histoire de voir un petit peu comment ça prend. Et après, derrière, essayer de recréer la même histoire qu'iconoclaste qui existe depuis 3 ans, qui a commencé avec une promo de 10 personnes. Arnaud, mon manager ici, le premier coach d'iconoclaste, aime à les appeler les fous parce qu'il y a 10 personnes, il y a 3 ans, qui se sont lancées dans une formation dont personne n'avait jamais entendu et qui se sont dit « Ok, on va se former pendant 4 mois ». Voilà. Et aujourd'hui, ouais, ça a créé cette belle histoire. Donc voilà. Voilà pourquoi.
Est-ce qu'ils sont devenus millionnaires maintenant? Alors, c'est 10, là.
Ils ne sont pas devenus millionnaires, en tout cas, pas à ma connaissance. Mais en tout cas, je sais que quand je parle avec eux aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils se sont enrichis à d'autres niveaux. Et ça, ça n'a pas de prix.
Bon, très bien. Donc, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a aussi faire un métier qui vous plaît et qui est enrichissant. Voilà. Donc, c'est peut-être pour conclure cet entretien. Est-ce que tu peux nous dire où vous voyez Iconoclast dans peut-être 5 ans, si on arrive à se projeter dans 5 ans en ce moment, mais on va essayer, on va faire un effort.
Ouais, voilà. c'est une bonne question. Où est-ce qu'on se voit nous dans 5 ans? Ben, on se voit déjà toujours en France avec en fait ici nous ce qu'on veut c'est absolument garder l'ensemble du modèle et des décisions prises en France donc à Paris. Où est-ce qu'on se voit? Ben toujours avec le plus d'iconeurs formés présents dans le plus d'entreprises possibles. Construire notre promo, nos promos anglaises, les faire grossir de plus en plus avec un modèle qui marche bien. Dans 5 ans, pour être très honnête avec toi, on envisage aussi New York. Ce serait quelque chose qui nous plairait énormément. Big Apple, la grosse pomme, avec tout ce qui s'y passe et tout ce qu'on sait en termes d'opportunités, de formation, de vente, ce serait énorme. Et ce qu'on aimerait bien faire aussi, et ça c'est un peu un rêve qu'on a chez Iconoclast, c'est de se dire que les sales qu'on a formés hier deviendront les formateurs de demain. Donc si on pouvait essayer dans 5 ans d'avoir commencé à créer une sorte de cercle vertueux, on commence à le voir apparaître, c'est le début de ce cercle. Il y a des iconeurs de la première promo qui deviennent des managers, des iconeurs des dernières promos. Donc voilà, on se voit toujours en France avec de plus en plus d'iconeurs satisfaits présents dans plein de boîtes, une promo anglaise encore plus grosse et une ouverture à New York avec pourquoi pas des iconeurs qui seront bientôt des formateurs.
Eh bien voilà, une excellente conclusion. Quelque part, vous êtes un peu les héritiers de l'école de vente tapis des années 80. Vous êtes la version moderne, la version 2.0, comme vous
Exactement.
Dites. Et puis bientôt, ça sera Iconoclast, Londres, Paris, New York. Et bonne chance à
C'est
votre
très gentil. École. Merci beaucoup, Yann.
Vous écoutez bien les podcasts de Sparklane sur le blog Sales and Marketing Insiders, le blog d'information sur la vente en B2B.